Allez, en selle pour la suite des midis. À 13h, je recevrai le chanteur Tiziz pour son nouvel album. Mais tout de suite, place au point culture de Sophie-Catherine Gallet. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Un axe essentiel de la diplomatie mondiale et la diplomatie culturelle, parfois confondue avec l'expression soft power. Comment la diplomatie culturelle s'est-elle construite et comment faire une histoire de cette pratique? C'est notre dossier du point culture du jour. Ludovic Tournaise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Genève et vous avez récemment publié un ouvrage, Histoire de la diplomatie culturelle dans le monde, les États entre promotion nationale et propagande. Alors vous faites remonter la naissance de la diplomatie culturelle aux années 1850, mais pourtant il y a eu de nombreux échanges culturels pensés dans une dimension politique au cours de l'histoire, et je pense en particulier à la période de la Renaissance, mais aussi à la création de la Villa Médicis à Rome par exemple. En quoi ces échanges culturels-là sont-ils différents de la diplomatie culturelle telle qu'on l'entend généralement aujourd'hui?
Alors en fait, l'affirmation de la diplomatie culturelle au cours du 19e siècle et en particulier de la deuxième moitié du 19e siècle, elle est liée vraiment à l'affirmation des États-nations. Et donc, alors il y a des États-nations évidemment qui existent avant ce moment-là, mais disons le 19e siècle est vraiment le siècle des nationalismes. Et donc la diplomatie culturelle, je dirais, se fait en parallèle à cette affirmation des nationalismes, et elle est en fait un répertoire d'action qui s'ajoute aux autres répertoires d'action des États pour faire rayonner leur puissance le plus possible.
On confond souvent aujourd'hui la diplomatie culturelle et l'expression soft power, dont l'équivalent français serait, je pense, la diplomatie d'influence, au point qu'on utilise parfois le mot soft power pour parler de la diplomatie culturelle en général. Alors, quelle est la différence fondamentale entre ces termes? Est-ce qu'elle se situe essentiellement dans le fait que le soft power soit une invention américaine et donc centrée forcément sur les enjeux américains?
Alors en fait, déjà effectivement, le soft power est une invention américaine qui est liée au contexte américain, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, moi personnellement, je n'aime pas du tout cette expression parce que c'est un concept qui ne veut rien dire. Il faut dire les choses clairement. En fait, le soft power, ça désigne une stratégie d'action. C'est une stratégie des acteurs de la politique qui disent, voilà, je fais du soft power pour renforcer le rayonnement de mon État. Mais en tant qu'historien, c'est un concept qui n'explique rien du tout, et il est très problématique pour ça. Et par ailleurs, il est même faux, parce que, je vais prendre un exemple très, très simple, quand on dit, par exemple, le cinéma hollywoodien est une marque du soft power américain. Bon, alors c'est vrai que le cinéma américain a pour résultat de renforcer considérablement l'influence des États-Unis, de donner une image positive des États-Unis à travers tout ce qui est raconté dans les films américains. Mais quand on regarde le caractère extrêmement coercitif et agressif des stratégies déployées par les studios hollywoodiens pour internationaliser le cinéma américain tout au long du XXe siècle, on se rend compte que c'est pas soft du tout. Donc voilà, le soft power, il pose problème pour ça. Moi, je lui préfère le terme de diplomatie culturelle, qui est un concept historique qui veut dire quelque chose, qui désigne un ensemble d'actions qui sont mises en place par des acteurs à la fois publics et privés, sous une coordination plus ou moins importante de l'État, pour faire rayonner la culture nationale. Là, on est vraiment dans quelque chose d'explicatif, alors que le soft power, finalement, désigne ce qu'on voudrait voir advenir, mais en réalité, il est toujours extrêmement difficile d'évaluer si ça marche ou si ça marche pas.
Et pour revenir en France, alors, la diplomatie culturelle s'est longtemps appuyée sur le réseau très dense, alors notamment, hein, évidemment, des instituts français dans le monde, qui dispensent des cours de langue, mais font surtout rayonner la culture française dans les pays concernés, et s'appuient aussi sur un principe de réciprocité et d'échange. Alors, est-ce que c'est une spécificité française, et est-ce qu'elle est toujours autant soutenue?
Alors non, c'est pas une spécificité française, parce que d'abord le principe de réciprocité, il a pas toujours été appliqué. C'est-à-dire que à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les pays qui mettent en place une diplomatie culturelle, alors c'est le cas de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'Italie, n'ont pas tellement en tête une question de réciprocité. Ce qui les intéresse, c'est de valoriser leur culture nationale, et comme elles se considèrent comme les dépositaires de la civilisation, finalement, elles ont pas besoin de réciprocité de la part des pays où elles essayent de diffuser ce message civilisé. La réciprocité va venir un petit peu après, dans les années 40-50, quand précisément ces puissances qui sont sur le déclin, hein, c'est le cas de la France ou de la Grande-Bretagne, finalement retrouvent les vertus de l'échange et de la réciprocité et vont les mettre en avant dans leur diplomatie culturelle. Donc voilà, ça, je pense que c'est disons, important de le signaler.
Et ça se manifeste comment, du coup, cette question d'échange et de réciprocité?
Oh bah, ça se manifeste tout simplement par le fait de, comment dire, de mettre en place des coopérations bilatérales avec des États dans lesquels on veut diffuser sa culture nationale. Si je prends par exemple, je sais pas, les années France-Brésil, par exemple, voilà, on va en France organiser un certain nombre de manifestations culturelles au Brésil pour valoriser la culture française, et inversement, on va recevoir, organiser sur place en France des manifestations qui valorisent la culture brésilienne. Donc c'est vraiment une diplomatie bilatérale. Mmh. Il y a beaucoup d'exemples de ce type.
Et avoisinant la question de la diplomatie culturelle, et c'est aussi le sous-texte de votre ouvrage, on ne peut pas ignorer la question de la propagande. Alors comment faire la différence entre les deux? C'est vraiment quelque chose de très voisin. Quels sont les exemples aussi dans le monde d'une diplomatie culturelle qui se sont mutées ou bien qui étaient d'emblée des instruments de propagande?
Alors, c'est effectivement la frontière entre les deux est extrêmement difficile à tracer. Alors d'abord, le terme de propagande, il est couramment utilisé par les acteurs de la diplomatie culturelle jusque dans les années 30 et 40. Aujourd'hui, évidemment, c'est un terme qui a été discrédité par la Deuxième Guerre mondiale, et à juste titre, mais dans les années 1910-1920, on l'emploie très couramment. Ça montre bien précisément la difficulté de tracer la frontière. D'une certaine manière, la diplomatie culturelle contient toujours une forme de propagande. La propagande n'est pas liée uniquement au régime totalitaire ou dictatorial, hein. Il y a une propagande démocratique et en l'occurrence, effectivement, la diplomatie culturelle contient en partie ça. Là où, effectivement, la frontière devient vraiment très très difficile à tracer, voire est complètement abolie, c'est pendant les périodes de guerre, où là, finalement, je dirais, il est très compliqué de tracer cette frontière. Et évidemment, dans les États dictatoriaux ou totalitaires, pour le coup, la frontière n'existe absolument pas. La diplomatie culturelle et de la propagande et vice-versa. Mmh.
Alors, il faut justement parler de la couverture de votre livre qui est édifiante et inscrit aussitôt le sujet dans l'actualité. On voit la fameuse église orthodoxe russe de Paris et juste derrière elle, la tour Eiffel. Alors, pourquoi vous avez choisi cette illustration et qu'est-ce qu'elle représente pour vous ?
Alors l'illustration représente justement bien ce côté, comment dirais-je, à double sens de la diplomatie culturelle, parce que c'est vrai que on a tendance souvent à limiter la diplomatie culturelle à des actions de diffusion d'une culture nationale à l'extérieur. Mais au fond, la diplomatie culturelle, elle est à double sens. C'est-à-dire qu'un État va s'efforcer d'exporter sa culture, mais il va s'efforcer aussi d'importer les manifestations culturelles d'autres pays, si jamais il y a des accords de coopération, bien entendu, entre les deux. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette dimension à double sens. Si je prends un exemple tout simple, les expositions universelles, par exemple, on a des manifestations qui se déroulent, alors par exemple pour la deuxième moitié du 19e siècle, beaucoup à Paris. Et ces expositions universelles, alors ce sont des foires commerciales, bien entendu, mais ce sont aussi des manifestations de diplomatie culturelle parce qu'il y a des expositions de peinture. Hein, et dans les expositions de peinture, la France expose sa peinture à Paris aux yeux du monde entier, mais elle accueille aussi les peintures allemandes, anglaises et d'autres pays qui finalement viennent se valoriser à Paris et donc faire de Paris le centre du monde pendant le temps d'une exposition universelle et avoir cet aspect, disons, à double sens. Donc je trouve que la couverture avec la tour Eiffel d'un côté et puis l'église orthodoxe de Paris illustre bien cette double dimension de la diplomatie culturelle.
Merci beaucoup Ludovic Tournas.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, le château de Versailles va augmenter ses tarifs pour les visiteurs non européens.
Après le Louvre qui a annoncé il y a quelques jours mettre en place un tarif différencié, c'est au tour du château de Versailles de lui emboîter le pas. À compter du 14 janvier prochain, les visiteurs extra-européens devront s'acquitter de 3 euros supplémentaires, une mesure qui devrait rapporter plus de 9 millions d'euros. Cette tarification différenciée, voulue par le ministère de la Culture pour financer la rénovation du patrimoine, s'étendra en 2026 à d'autres monuments.
Le dictionnaire Le Robert vient de publier la liste des 10 mots les plus recherchés en ligne en 2025.
Avec plus de 50 millions de recherches cette année, cette liste offre un aperçu des préoccupations de notre époque. Ainsi, le mot masculinisme qui arrive en tête a connu une augmentation du nombre de ses recherches de l'ordre de 800%, quand les termes eugénisme et vassal se classent respectivement en 4e et 10e position. D'autres mots de cette liste sont davantage l'écho de l'actualité comme conclave, qui arrive à la 2e place, ou les termes séditieux et gougnafier, qui ont été tous les deux utilisés par des personnalités politiques au cours de l'année.
Et pour finir, Sophie Catherine, le prix Louis de Luc 2025 vient d'être annoncé.
Créé en 1936, le prix Louis de Luc est la plus ancienne récompense du cinéma français. Elle couronne chaque année un film mêlant exigence artistique et originalité du style. Et c'est la réalisatrice Afzia Herzi qui est la lauréate de l'édition 2025 pour son film La Petite Dernière. À ce prix vient s'en ajouter un autre, puisqu'a été créé en 1999 le prix Louis de Luc du premier film. Il est attribué cette année à Valentine Cadic pour Le Rendez-vous de l'été.
Merci Sophie Catherine, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.